Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot, édition Qatar 2022. Aujourd'hui, on va se pencher sur le groupe G en compagnie de Jean Gounel et Sidney Vaux. Les gars, comment ça va?
G, ça veut dire qu'on s'approche pas mal du bout, là, de l'avant. On termine l'avant. Bon, on va rentrer dans le tournoi, mais pas encore tout à fait. J'en ai bien là.
J'ai l'impression d'avoir le gars qui a fait des rénos chez nous l'an dernier, qui m'expliquait son plan de match avant que ça commence. J'ai plus ou moins compris, mais je suis bien excité.
Je t'explique.
On va commencer avec les Brésiliens. Jean, dans un groupe, on va retrouver la Suisse, la Serbie et le Cameroun également. Est-ce qu'on peut faire simple et dire que les Brésiliens sont pour le moment favoris?
Peut-être, voilà.
That's it?
Ouais.
On passe
ouais.
à la Suisse ou on a d'autres choses?
On passe à la Suisse. Non, mais d'abord, la première chose qu'il faut dire, Tite. Tite, c'est le sélectionneur. Un sélectionneur brésilien qui réussit à survivre à une élimination en quart de finale, c'est déjà pas mal. C'est fort.
T'as une passion magique à quelque part.
Arriver à convaincre qu'il a un projet, hein, c'est bon. On va continuer. S'inscrire sur ce genre de durée et de dire. Ok, c'est bon, j'avais choisi pour 2018 un groupe qui était relativement jeune. On continue sur les mêmes bases. On s'est fait éliminer en quart de finale, mais on continue sur ces bases-là et ça va marcher. D'avoir réussi à convaincre la direction du football brésilien de continuer comme ça, c'est extraordinaire. Et tu regardes, eh ben oui, il continue avec effectivement un certain nombre de il est fidèle à un certain nombre de concepts. Le premier étant Neymar, quand même, parce qu'il y a quand même une organisation qui se fait parce qu'il y a Neymar et pour Neymar, mais dans lequel il a trouvé quand même d'autres choses. Et maintenant, il a plein d'options de jeu qu'il a mis en place. Il a eu la chance d'avoir deux Copa América entre les deux, une gagnée, une sur laquelle le Brésil est allé en finale. Des éliminatoires qui sont très longues en Amérique du Sud, sur laquelle tu peux quand même... Et où le Brésil est tellement là, que, tellement au-dessus du lot, qu'il peut se permettre de regarder un certain nombre de choses. Donc, au niveau de la gestion générale du concept de jeu puis des joueurs, je pense qu'il est dans une situation absolument optimale. Et puis, il a une génération qui est...
Ça vient avec le poids du monde sur les épaules, parce qu'il y a des attentes. On a vu ce que ça donnait en 2014 au Brésil. En même temps, une sélection, Sid, qui est 5 fois championne. Personne n'a soulevé le trophée plus souvent que les Brésiliens. Ils ont participé à toutes les Coupes du monde depuis 1930. L'avantage que tu as, c'est que tu as quasiment une mémoire intergénérationnelle d'un groupe à l'autre qui fait en sorte que tu as des expériences qui sont acquises, que tu n'as peut-être pas vécu toi-même, mais il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui a vécu soit des hauts extraordinaires ou des bas catastrophiques. On repense encore à cet affrontement face à l'Allemagne en 2014, mais ça, c'est tellement utile, contrairement à une équipe comme, on va prendre le Canada comme exemple, qui n'a pas participé en 36 ans. Tu n'as aucun repère de Coupe du Monde.
Tout à fait. Le traumatisme de 2014 est forcément présent pour un groupe qui a pas tant changé. La semaine dernière, je faisais un plaidoyer pour des Coupes du Monde aux 3 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a quand même pas mal de joueurs des éditions 2014 et aussi beaucoup de éditions 2018. Le Brésil archi favori, mais en même temps, je me suis rendu compte que à chaque Coupe du Monde, on dit ça. C'est la force, du Brésil qui a un vivier de talent extraordinaire.
Mais d'habitude, tu as d'autres sélections. Tu sais, l'équipe de France, avec toutes ses forces, je pense qu'on se pose plus la question, même si les Brésiliens étaient peut-être une petite longueur d'avance. Il y a 2 semaines, pour moi, les Brésiliens n'étaient pas seuls. Mais là, sur papier, les Brésiliens sont seuls.
Oui, avec le dévoilement de la liste, il y a très peu de formations qui peuvent se permettre d'écarter Bobby Firmino, qui serait titulaire dans sûrement 25 des autres équipes participantes à la Coupe du Monde. Donc, Tite, un groupe très intéressant. Et puis, effectivement, c'est le projet Neymar. Mais la particularité de cette année-là, c'est que Neymar pourrait complètement rater sa Coupe du Monde, que ça changerait pas grand-chose finalement aux chances du Brésil de l'emporter. Il y a tellement de paramètres qui doivent aller dans le sens contraire. Je pense que le scénario qui éliminerait le Brésil serait forcément d'être mené très tôt et face à une équipe qui fait énormément de fautes et qui arrive à être solidaire défensivement avec un Neymar qui pèterait les plombs et mentalement viendrait affecter toute son équipe. Ça, c'est le scénario, c'est comme ça que le Brésil va se faire éliminer. Il n'y aura pas une équipe qui va dominer le Brésil dans le jeu et qui va aller sortir.
Le Brésil va se battre lui-même.
Le Brésil va se battre lui-même, ça je vous dis tout de suite. Par contre, on a une équipe qui aujourd'hui, j'ai l'impression, qui est prête à ça, et quand on voit une défense autour de Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, qui est vraiment une assise solide. Et devant eux, on a Casemiro. Et si Casemiro se pète, comme c'était le cas en 2018, ben là, cette fois-ci, t'as Fabinho. C'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Puis c'est vrai, donc, comme ce que tu vas faire ton plan anti-Neymar, mais comme il faudra aussi aller chercher Rafinha et Vinicius, surtout avec un Gabriel Jesus devant. Donc c'est quand même une équipe qui vraiment vraiment n'a pas son étiquette de favori, ils l'ont pas prise pour rien.
Si la question était simple, Jean, pour la Suisse, pour le Brésil, elle va l'être tout autant pour la Suisse. Est-ce que Granit Xhaka peut éviter de se faire expulser?
Ouais, encore que je dirais qu'il a mis du temps, mais il y a quand même
pris de maturité.
Ouais, je crois. Lui aussi il bénéficie, je dirais, de d'abord, hein, on parle de Granit Xhaka comme le joueur de la sélection. Hey, Shaqiri, il est toujours là. C'est fini, Shaqiri. Avant, c'était le créatif, c'était le joueur sur lequel on focalisait. C'est fini, ça. Hein?
Qu'est-ce qui a amené cette, j'allais dire, déchéance? C'est pas la déchéance pour Granit Xhaka, pour Jordan Shaqiri, mais qu'est-ce qui a amené ce glissement-là, alors que pour Xhaka, c'est le contraire?
Est-ce qu'il est arrivé à un plafond vers 2016, à peu près? Parce qu'ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas senti à Shaqiri progresser. Son passage à Liverpool n'a pas été bon. Il n'a pas fait ce que tu vois, t'as vu un Mo Salah faire. C'est-à-dire un joueur connu, mais certainement pas top à l'époque, au moment où il arrive, mais qui ne se valorise pas et qui ne franchit pas le palier supplémentaire ensuite, alors que l'environnement était pourtant relativement propice. Donc je pense qu'il a plafonné et puis après il a un petit peu disparu de la circulation. Donc choix de carrière, peut-être lui-même peut-être pas voulu en mettre plus que nécessaire, mais par contre tu vois que Xhaka, qui en a mangé beaucoup à Arsenal, parce que rester à Arsenal après tout ce qu'il a pris, c'est que il a du coffre. Et puis là, ce qu'il nous montre, c'est que c'est quand même il y avait vraiment raison d'avoir confiance en lui. L'arrivée de Murat Yakin à la tête de la sélection, passage à un système très 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 carré, le 4-2-3-1 où Xhaka est avec Freuler là devant la défense, là aussi c'est vraiment extrêmement solide et je pense que ça convient bien à la sélection.
Pour les Suisses, c'est une 12e présence, eux qui ont été là à chacune des 5 dernières. Ça va être leur 5e présence consécutive. Là, ça devient un avantage pour une équipe qui, quand même, là, doit nourrir absolument l'espoir de passer au deuxième tour. Le Brésil va finir, on le présume, premier de ce groupe-là, mais avec la Serbie et le Cameroun, qui sont, je te dirais, comparables à la Suisse, tu dis, ben, on a notre destin entre nos mains.
Oui, la Suisse qui d'ailleurs passe régulièrement le second tour, une équipe qui est vraiment très 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 homogène, qui aussi à l'image un peu de cette Europe très diversifiée, avec qui prend avantage de son immigration, parce qu'on voit vraiment toute la Suisse quand ce qu'on voit comme l'équipe nationale, Mbolo qui est d'origine camerounaise, qui est l'attaquant très en forme du côté de la Nati. Donc une équipe qui, oui, peut faire des différences. Malheureusement, Sommer semble être à court physiquement. Lui qui a été clé dans la victoire de la Suisse contre la France en 8e de finale du dernier Euro. Donc moi, c'est une équipe que je trouve très intéressante, qui avait fait du mal au Brésil. D'ailleurs, en passant, c'est un groupe qui est miroir avec celui en Russie 2018 avec le Cameroun à la place du Costa Rica. Donc on peut avoir des matchs très intéressants de la Suisse.
La Serbie en est à une 13e participation. Bon, historiquement, il y a la Yougoslavie là-dedans. Ça devient un petit peu complexe. On commence à tout décortiquer. On va y aller assez simplement avec une 13e participation. C'est une équipe, on les appelle souvent les Brésiliens d'Europe. Est-ce que tu les vois? En fait, l'approche des Serbes face à la Suisse et au Cameroun, est-ce qu'eux se présentent là? Même si ton pedigree peut-être justifie pas un excès de confiance, mais est-ce que tu te présentes là comme patron et comme celui qui va dicter le jeu face aux deux équipes qui sont avec toi celles qui vont se battre pour la deuxième place?
Oui. La Serbie s'est qualifiée directement pour la Coupe du Monde devant le Portugal. Voilà, ça vous place un petit peu, en étant meilleure attaque de son groupe, ça vous place un petit peu le niveau. Il y a toujours eu un extrêmement de talent, historiquement, dans ces régions du monde. Et là, on a Mitrovic, Vlahovic, Tadic. Bref, c'est du talent. Et je crois véritablement qu'on a une équipe qui peut surprendre et qui fait que ce groupe-là, avec la réflexion, bon, le groupe H aussi sera intéressant, ouais. Mais c'est peut-être le groupe le plus relevé du plateau. La Serbie, en tout cas, va vraiment avec l'ambition de se qualifier. Je pense que c'est une équipe qui est très, très intéressante. Et puis, généralement, c'est aussi ce qui se passe beaucoup dans ces sélections-là, c'est que c'est des joueurs qui sont très habitués à jouer ensemble. Donc, il y a à la fois beaucoup de talent, mais on voit souvent des ossatures qu'on a vues dans une championnat du monde U20, U23.
Les Serbes sont généralement très performants.
Exactement. Ouais. Et donc, et ça paraît. Donc, non, moi, c'est une équipe que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, là, très récemment, je pense qu'ils ont vraiment enchaîné des résultats très impressionnants.
Est-ce que le contrôle des émotions pour une équipe qui en fait vivre beaucoup à ses partisans, même aux amateurs neutres et qui n'ont pas de billets pour les Serbes, parce que comme Sid le disait tout à l'heure, Jean, c'est une équipe qui joue du beau ballon. En même temps, des fois, il peut y avoir, je parlais d'excès de confiance tantôt, ça se justifie pas, mais des fois, pour une équipe qui aime prendre les choses en main, il peut y en avoir un peu. Quand ça se met à glisser, c'est cliché, mais les Serbes peuvent avoir le sang chaud. Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça pourrait jouer pour eux?
Il y a toujours eu, effectivement, ou régulièrement, des problèmes de discipline sur le terrain, pas forcément discipline dans le groupe, mais sur le terrain, effectivement. Et effectivement, lorsqu'il y a un petit truc qui ne va pas, ça peut partir rapidement, complètement dans tous les sens. Je pense que, là, on va encore parler d'entraîneur, mais l'arrivée de Dragan Stojkovic a eu un effet monumental. Dragan Stojkovic, c'est vraiment un des joueurs, je ne vais pas dire légendaire, parce qu'il y en a tellement là-bas en Serbie, mais qui représente le beau football, un milieu de terrain super élégant, super efficace. J'ai déjà dit, c'est un peu comme Zidane prenant l'équipe de France, quoi. C'est vraiment un joueur que tout le monde adore, que tout le monde admire. Pour faire l'unanimité dans le groupe et pour faire passer son message, c'est super important. Ouais. Il a en plus réussi quelque chose que personne n'avait fait avant, c'est d'arriver à mettre ensemble et à trouver un système où un paquet de talents offensifs
fonctionne.
Sont capables de cohabiter et pas se marcher sur les pieds. Maintenant, Tadic, il est mis un peu en retrait derrière deux attaquants.
Ils ça ressemble un peu à ce que Scaloni a fait avec l'Argentine, à quelque part.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est arrivé, effectivement, à mettre des pièces ensemble pour que, un, on ne se marche pas sur les pieds, et un, et deux, on bonifie même le talent de chaque individualité. Plus Milinkovic-Savic, qui est un milieu de terrain qu'on attendait qu'il soit extraordinaire il y a 4 ans, on a vu par petites bouts ce qu'il était capable de faire. Parce que là, lui aussi, avec 4 ans de plus, il est capable de rayonner sur un milieu de terrain.
Le Cameroun, maintenant, je sais que c'est une équipe que tu regardes toujours juste du coin de l'œil, là, tu négliges un petit peu, question de te faire chicaner par la famille. 8e participation avec une légende à la barre de l'équipe.
Oui, Rico Bersang qui est venu sauver un peu cette sélection qui allait nulle part, un peu comme à son habitude, une équipe qui est tellement inconstante, mais qui est capable de très
beaux... Avec tant d'affection.
Oui, c'est comme mes bleus, hein, mes lions, mes bleus et maintenant mon Canada. C'est une équipe qui a surpris dans sa Coupe d'Afrique en arrivant donc à troisième position, éliminée par l'Égypte au tir au but, et après avec un scénario rocambolesque, a réussi à battre le Burkina Faso et ensuite a fait un peu la même chose contre l'Algérie dans un match ultra controversé du côté de l'Algérie où ils l'ont emporté avec un but à la dernière minute. Donc une équipe qui, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, a retrouvé une ambition qui l'a caractérisée dans les années 80 surtout. C'est une excellente, une grosse équipe africaine dans les années 80-90 et puis ensuite début 2000 sous l'impulsion des Claude Leroy notamment. Donc cette formation qui peut-être un peu trop tôt cette Coupe du Monde pour un groupe qui se cherche vraiment d'un point de vue d'identité tactique, mais qui peut surprendre. On voit en ce moment Eric-Maxime Choupo-Moting qui marche sur l'eau du côté du Bayern. S'il est capable de reproduire ses mêmes performances, tout comme Zambo Anguissa, qui est vraiment un joueur extraordinaire du côté de Naples, mais qui souvent font partie de ces sélections où le maillot est très lourd à porter. Il y a véritablement 20 millions de sélectionneurs au Cameroun.
Et les anciens.
Et des anciens qui parfois ont un miroir assez déformant sur leur propre performance et donc ils sont très très critiques. Donc c'est compliqué un petit peu à gérer, à naviguer tout ça, mais ça peut être un espèce de facteur X dans ce groupe. À titre personnel, je ne m'attends pas à grand chose du Cameroun, mais il y a plusieurs matchs de gala pour eux dans ce groupe et ça peut être intéressant à suivre.
Jean, je suis intéressé d'avoir ton opinion là-dessus, mais juste avant, un maillot lourd à porter, c'est pour ça que le Cameroun a essayé de trouver des One Piece, de couper des manches.
C'est ça? Oui, donc toujours avec Puma, ça a été justement une des sélections les plus avant-gardistes et sur le style vestimentaire, ce fameux maillot démembré, refusé par la FIFA d'ailleurs, qui fait le plaisir des collectionneurs aujourd'hui.
Vous avez le droit, mais trouvez-vous des manches noires, parce que nous, on a des logos à mettre sur les manches, puis vous n'aviez pas prévu ça. On va faire quoi avec le fair play si on n'a pas de manches? Vous pouvez vous faire tatouer, sinon on verra pour la suite. Comment dire, c'est pas du cynisme que je sens chez Sid, c'est un réalisme qui peut peut-être mener à quelque chose de plus enthousiaste au cours des prochaines années. Passer le groupe ou sortir du groupe ou pas, est-ce que c'est un objectif réaliste?
C'est un objectif. Je pense que ce sera vraiment difficile.
Bon, mais t'es à la même place que c'est. Difficile.
C'est un peu fataliste, non, mais ce sera vraiment, vraiment difficile. Le Cameroun manque aussi pas mal de repères face à ce genre d'équipe, parce que clairement, il y a un style de jeu hein, que Song a amené, mais je les vois mal reproduire ce style de jeu face au Brésil, face à la Serbie, ouais, face à la Suisse. Parce que avec une défense qui ne me donne pas non plus totalement confiance, c'est ouvrir la porte à pas mal de problèmes.
Ce qui historiquement a toujours été une excellente des défenses, parmi les meilleurs gardiens du continent sont camerounais. Onana, qui est le gardien de l'Inter, clairement, est un exemple. Mais ils sont moins solides défensivement qu'ils l'ont été historiquement, permettant après aux talents type Mboma et tout et consorts de briller. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, je pense que dans les prochaines années, ce sera une sélection sur qui il faudra compter à nouveau.
Mais dans les médias, c'est lacune défensive. Ça doit faire mal au cœur à M. Rigobert Song, qui était pas mal le patron dans ce domaine-là. Question du jour, fort intéressante, les gars. Le meilleur joueur à ne jamais avoir soulevé le trophée de la Coupe du Monde, Jean? Là, sors-nous pas quelqu'un dans les années 30, s'il vous plaît.
Bah, Talionidas.
Non. Pour vrai?
Ah, c'est une histoire extraordinaire. Talionidas qui était, le Brésil arrive à la Coupe du Monde, donc on est dans les années 30. En Europe.
C'est ton choix pour vrai, là, ou tu viens juste de partir là-dessus?
Mais non, d'un coup, tu me dis les années 30, je dis, ah ben, il y a lui, c'est vrai aussi. Et qui était la super vedette. Et les deux premiers tours, il marque je sais plus combien de buts, c'est 4 buts dans tel match, 3 buts dans l'autre et tout. Ils arrivent en demi-finale contre l'Italie. Et là, le sélectionneur brésilien dit, je vais le reposer. Et ils sont sortis à part l'Italie et puis on n'en parle plus. Ah, et ce gars-là, il aurait pu être Pelé avant Pelé, quoi, clairement. Non, j'en vois deux, je vois Puskás et Cruyff.
C'est vraiment pas scripté, c'est incroyable. J'étais tellement content de mes choix.
Waouh,
tu m'as volé mon punch.
Bravo. Pourquoi?
Ben, parce que je réfléchissais à... quels sont peut-être les trophées qui auraient peut-être un peu changé notre vision de l'histoire. La Hongrie a dominé l'Europe pendant longtemps autour des années 50. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est très très connu et reconnu. Et cette Coupe du Monde là aurait pu installer Hongrie 54. Je pense que la Hongrie aurait pu l'installer au panthéon européen. Puis la deuxième, et je pense même que j'aurais mis Puskás avant Cruyff, parce que Cruyff finalement lui a donné un peu ses lauriers, notamment grâce à Barcelone aussi après l'Ajax. Mais 74, je pense que c'est le plus beau non champion de l'histoire de la Coupe du Monde, et que si cette Coupe du Monde était revenue à Cruyff, je crois qu'on aurait une autre discussion sur la hiérarchie des joueurs.
Des Maradona et compagnie.
Oui, effectivement, tout à fait.
Bon, moi, je suis allé ailleurs avec un gars qui a juste pas mis les pieds sur un terrain de la Coupe du Monde. J'y vais exactement, Jean, avec George Best. Ma logique est la suivante. Il a jamais même essayé. Hey. On va jouer au ballon un peu. Ouais, champion d'Europe avec Manchester United, ouais, pas de problème. Faut que j'aille au pub. Là. On peut-tu finir le match vite, s'il vous plaît? Je vais vous en planter quelques-uns. Le gars a jamais forcé. Tu sais, on parle d'un Ryan Giggs, par exemple, qui a jamais été capable d'aller à la Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Je mets pas Ryan Giggs dans cette catégorie-là, mais tu sais, c'était des gars qui étaient carrés dans une ère où tu faisais les choses de manière droite. Maradona est pas ça, mais il y a eu plus de longévité. George Best, ça a été comme un accident de train. Ça a été une période courte, super intense, où il aurait pu se retrouver au top du monde. Il n'a jamais été capable de gérer ça. Mais le voir sur un terrain, à une époque où Maradona l'a montré en 1986, un joueur comme ça, à l'époque, était capable d'amener une équipe qui n'avait pas ce qu'il fallait là où elle ne devait pas être. Et je pense que George Best, aussi minime auraient été les chances de l'Irlande du Nord, il aurait été capable d'aller loin dans un tournoi comme ça. Est-ce qu'il aurait soulevé le trophée? Non. Il n'en serait jamais arrivé là. Mais pour moi, c'est vraiment un joueur phénoménal qui n'a jamais essayé d'être bon. Il n'a jamais eu la rigueur nécessaire pour s'installer et rester au top du top.
Il y a ça, plus l'environnement, et c'est vrai qu'il dénotait complètement. Tu parles de Maradona, mais il vivait. Maradona, il a joué à une époque où déjà certains excès, ou en tout cas certains styles de vie étaient pas mal plus acceptés.
Ouais.
Et... OK. Best, il suffit de voir la bio de Bobby Charlton.
Ben ouais.
Est-ce que Charlton en dit, donc après l'avoir côtoyé pendant des années à Manchester United, tu te dis, mais comment ces gars-là ont pu être sur le même terrain?
Non, c'est de la royauté, c'est tout ce qu'il y a de plus britannique, carré. L'autre, c'est...
Et le dit, je ne comprends, j'ai jamais compris ce cas-là. J'ai jamais compris son mode de vie, j'ai jamais compris ce qu'il faisait cliquer.
Malheureusement, je pense que George Best non plus ne l'a jamais compris.
C'est que lui, il va regarder Bobby Charlton et se dit, hein? Bon.
Sélection canadienne. Sélection canadienne maintenant. Le Bayern a-t-il manqué de prudence dans la gestion d'Alphonso Davies au cours des dernières semaines? Évidemment. On a un regard biaisé, intéressé sur l'utilisation de Davies quelques semaines avant une Coupe du Monde où c'est ton joyau. C'est pas ton seul joyau, mais c'est ton joyau principal. Est-ce que le Bayern a été, je veux pas dire négligent, mais a manqué de prudence, Sid?
Non. Ce sont des actifs extrêmement précieux pour les clubs. Ils investissent de nombreux millions sur les joueurs. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas les mettre dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'Alphonso Davies a un historique musculaire qui commence à poser certaines questions par rapport à son âge. On rappelle qu'il n'a que 22 ans. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en équation. Maintenant, je ne peux pas imaginer que du côté du staff médical et aussi technique du Bayern Munich, on ait pris des décisions qui mettaient en danger l'intégrité physique du joueur. Comme Sadio Mané qui s'est blessé hier, il n'y a pas cette intention-là, malgré le résultat fâcheux par rapport au Sénégal et que ça aurait pu être par rapport maintenant pour nous au Canada. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait une preuve de négligence. Tout simplement, c'est les conséquences d'une Coupe du Monde en novembre, décembre, dans lequel on n'a pas mis une trêve suffisante pour permettre justement d'éviter ce type de situation, parce que aujourd'hui, il y a encore des matchs jusqu'à fin de semaine, alors que la Coupe du Monde commence la suivante. Donc c'est plutôt là où moi je mettrais l'emphase je crois qu'on aurait eu le même discours à l'inverse s'il n'aurait pas joué. On aurait parlé de manque de rythme. Le match contre le Bahreïn, ils sont très contents, les joueurs de Toronto, de pouvoir le faire. Donc
on a choisi Toronto là, par contre. Ça fait un bout qu'il joue plus.
Effectivement, non, mais je pense que pour le coup, je veux dire, sur le terrain, Alphonso Davies, il n'y a que des internationaux qui sont avec lui. Il n'y a pas un traitement de défaveur. Je pense que tous les autres joueurs sont dans la même situation que lui. Par contre, lui, c'est vrai qu'il a une condition en ce moment.
C'est l'historique de la dernière année qui aurait pu.
Exactement, mais c'est ça. Donc après, voilà. Mais je n'adhère pas à ce discours qui serait de blâmer le Bayern de Munich. Ce serait un peu inconscient sur les enjeux aussi du Bayern Munich. On a aussi parlé des rémunérations que reçoivent les clubs à chaque fois qu'un joueur passe une journée à la Coupe du Monde.
Ouais, si tu n'avais pas de Bayern, tu n'as pas d'Alfonso Davies et tu n'as pas de Canada à la Coupe du Monde en ce moment.
Donc, c'est une façon de le voir aussi. Exactement.
Jean, d'accord avec ça?
Oui, ouais, absolument. Absolument. Tu ne peux pas prendre en compte effectivement ce cas individuel, sachant que le Bayern a 8 joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde et que dans le cas du club, tu ne peux pas prendre tous ces cas individuels ensemble et dire « Ok, on va les mettre de côté ou on va leur donner une demi-heure de jeu. » Et puis voilà, ce n'est pas possible.
Et avant ce match-là, contre Hertha Berlin, il avait joué 45 minutes dans le match précédent. À partir du moment où quelqu'un dit, parce que j'ai vu des commentaires comme ça passer, ben, « Pourquoi tu le fais jouer 45 minutes? » Mais là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si tu ne joues pas 45 minutes, tu n'es pas en congé en train de manger des chips sur le sofa. Là. Tu t'entraînes pendant une heure et demie. Non, mais tu continues de t'entraîner. Tu as une journée de travail à faire quand même pour te maintenir. Donc, 45 minutes de match, c'est théoriquement vraiment moins taxant. Ça dépend de ta séance d'entraînement, mais qu'une séance d'entraînement de 90 minutes où tu pousses la machine. Mais c'est qu'on ne le voit pas, cet aspect-là du travail à l'entraînement. Alors que 45 minutes en match, on a l'impression que c'est une grosse intensité. C'est vrai, mais c'est 45 minutes pour des gars qui s'entraînent et qui s'entraînent des fois deux fois par jour, qui s'entraînent 90 minutes par jour à tous les jours, à haute intensité. Je pense que là, c'est plus le fait qu'on était échaudé un peu d'avoir cette nouvelle-là de la blessure de Davies.
Le cas de la gestion après que va en faire John Oldman, maintenant qu'il va, il va revenir avec la sélection.
Quel genre de risque tu prends?
Quel programme tu vas avoir avec
l'entraînement?
Lui. Et là, tu as une semaine, 10, 11 jours, parce que le Canada commencera le 23. Donc, il y a deux matchs prévus à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec Davies? Est-ce que tu vas lui donner un peu de temps de jeu? J'aurais du mal à penser qu'on le verra vraiment sur le premier. Ensuite, là, tu fais attention. Je me souviens de cette Coupe du Monde
où Zidane se blesse. Juste pour être clair, tu veux dire du premier contre la Belgique?
Non, pardon.
Contre le Japon?
Premier match de préparation.
Face au Bahreïn?
Ouais. Hein? Mais, pas face au Bahreïn, face au Japon, pardon. Ça me serait surpris de voir jouer contre le Japon. Ou peut-être un tout petit peu match. Mais tu te rappelles Zidane? Mm-hmm. Match de préparation juste avant la Coupe du Monde en Corée. Il s'abîme. Il manque les deux premiers matchs. La France est éliminée.
Toi, premier match, présent ou pas, Alfonso Davies?
Belgique?
Contre la Belgique? Présent. Oui, présent.
Sur le terrain?
Oui, sur le terrain. Oui.
Non, mais
c'est une excellente question. Et oui, mais après, je pense que le communiqué du Bayern avait été plutôt positif.
Ouais, mais ça remet pas en cause sa présence à la Coupe du Monde. Toi puis moi, on peut y aller à la Coupe du Monde. Oui. Non, mais les mots sont choisis.
Effectivement. Mais je pense que c'est plutôt. On était plutôt prudents du côté de. Du Bayern, mais en même temps, je pense pas qu'il soit remis en question. Maintenant, je veux dire, le vrai éléphant dans la pièce, c'est le fait que l'UEFA et la FIFA sont pas capables de s'entendre ou ne veulent pas s'entendre parce pour des intérêts complètement commerciaux, et on fait en sorte qu'on est dans cette situation où encore une semaine, 10 jours avant la compétition, et aussi 10 jours après, comme il y aura la reprise de tous les championnats, et puis c'est des situations qui sont inacceptables pour les joueurs. Et je pense que on parle pas assez de ces phénomènes-là. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'il faut un plafond d'un nombre de matchs maximum dans une année pour les joueurs, 50, je ne sais pas. Mais en même temps, ce n'est pas normal et ça met un stress sur tout le monde, sur les sélections et aussi sur la qualité du spectacle qu'on aura durant la compétition.
Mais là, 10 jours après la compétition, comment on va faire pour célébrer le jour de l'an s'il n'y a pas de match?
Ah ouais, c'est vrai. On a besoin du Boxing Day.
Demande à Jürgen Klopp.
Mais le syndicat des joueurs en Allemagne a réussi à faire qu'il y ait 4 semaines entre la fin de la Coupe du Monde et le début des compétitions. Donc il y a aussi des exemples constructifs à mettre de l'avant, faisant en sorte que du côté de la Bundesliga, on aura sûrement une meilleure compétition par la suite.
Les gars, mais ça, tu le feras jamais passer en Angleterre. Excuse-moi, mais non. Oui. Non.
Là, tu veux dire dans le temps des fêtes?
Là. Non, le 20 décembre, 2 janvier. Là, non.
Ça va te prendre 20 ans. Puis plusieurs Jürgen Klopp.
T'es optimiste, toi.
Bon, sur ça, je vais être optimiste pour le reste de la semaine parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine, les gars. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Petit rappel avant de vous laisser avec cette émission que les inscriptions sont en cours pour la Coupe RDS Jeux vidéo FIFA 23. Les inscriptions sont disponibles et ouvertes jusqu'au 11 novembre à coupe-rds-jeux-vidéo.ca. Le gagnant du tournoi FIFA 23 va remporter une carte cadeau de 500 $ à dépenser chez La Source. C'est une gracieuseté de Bell. Il y aura une diffusion sur le web des séries éliminatoires qui seront diffusées exclusivement sur la chaîne Twitch de Bell les 23, 24 et 25 novembre 2022 pour FIFA 23. Et la grande finale, elle, sera diffusée simultanément sur la chaîne Twitch de Bell et la page Facebook de RDS Jeux Vidéo. Ce sera le 26 novembre pour FIFA 23. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager le contenu sur le rds.ca/baladodiffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.